Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie qui est en train de s'écrire. Depuis le 22 février, le pays est secoué par une contestation massive déclenchée par la candidature à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission et remplacé comme président par intérim par Abdelkader Ben Salah, une figure du régime rejetée par la rue. L'élection présidentielle qui devait se tenir les 18 avril a été fixée au 4 juillet prochain. Si la phase de transition est ouverte en Algérie, elle n'est pas sans danger. Regard avec nos invités, Nadji Safir, sociologue, consultant international, spécialiste du Maghreb, membre de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au quotidien d'Oran et collaborateur à Orient 21, auteur de L'Algérie, un pays empêché en sans question, aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Vermeuren, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb, membre du laboratoire CIRIS et auteur de plusieurs ouvrages dont Dissident du Maghreb, paru aux éditions Belin. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Elle devait avoir lieu le 18 avril, elle a été fixée au 4 juillet prochain, si tout se passe comme prévu par les autorités algériennes. Elle, c'est l'élection présidentielle. Mardi dernier, 9 avril, le président du Conseil de la Nation, qui est le Sénat algérien, Abdelkader Ben Salah, a été installé comme chef de l'État intérimaire. La transition est donc lancée, mais d'une manière qui n'est pas partagée par tous, loin s'en faut. D'un côté, l'armée qui veut que la transition se fasse à l'intérieur de la Constitution. De l'autre, la rue qui veut que cela se fasse à l'extérieur de la Constitution afin que soient mises sur pied des institutions de transition permettant d'engager des réformes profondes et d'organiser des élections libres. Quel est, à chacun, votre regard sur la situation aujourd'hui, Nadji Safir?
En ce qui me concerne, je soulignerai trois points qui me paraissent fondamentaux. D'abord, l'importance du mouvement social qui s'est engagé à partir de la mi-février et qui est un véritable soulèvement populaire d'une ampleur absolument inédite. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'il y a un tel mouvement dans le pays. Et donc, mon sentiment, c'est qu'un mouvement aussi important ne s'arrêtera certainement pas du jour au lendemain. Le deuxième point, c'est le discrédit total qui frappe l'élite politique qui était en place. Je crois que c'est une rupture profonde des relations qui existaient entre cette élite et le peuple. Et donc, je crois que la solution qui semble se dessiner du point de vue officiel et qui privilégie les formes constitutionnelles est à mon avis totalement inadapté à une situation qui est une situation révolutionnaire. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le mot. Et troisièmement, sur le plus long terme, ou peut-être qu'on y reviendra, personnellement je suis très inquiet sur tout ce qui concerne la dimension économique. L'une des principales conclusions auxquelles on peut arriver en ce qui concerne l'héritage des 20 ans de gestion du président Bouteflika, c'est une véritable catastrophe économique qui, à mon avis, incite à être assez circonspect pour l'avenir. Mais probablement, on y reviendra.
Oui, absolument, Nadji Safir. Pierre Vermeuren, vous partagez, et quels autres éléments vous pourriez ajouter quant à l'observation et l'analyse que vous faites de la situation actuelle?
Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. On reviendra sur l'économie, hein, oui. Vous l'avez dit. Mais ça, c'est vrai que c'est la clé, parce que si vous voulez, si l'armée veut à nouveau diriger l'Algérie, je lui souhaite bon courage, quel que soit d'ailleurs le futur dirigeant. Si c'est la classe politique, ce sera la même chose, hein, parce que les défis sont presque insurmontables. Malheureusement, il va bien falloir les surmonter d'une manière ou d'une autre. Concernant l'ampleur des manifestations, alors, bon, évidemment, moi, je ne sais pas en France si on peut estimer le nombre de manifestants, hein. On nous dit bon 15 à 20 millions, ça voudrait dire que il y a la moitié du peuple ou à peu près tous les gens valides en dehors des enfants et des personnes âgées. Bon, ça paraît évidemment beaucoup, mais en tout cas, c'est des millions de personnes dans toutes les villes du pays, dans toutes les régions. Parce que d'habitude, c'est souvent Alger, la Kabylie. Là, c'est absolument tout le pays. Ça n'a rien à voir avec 88. 88, c'était la jeunesse, une partie de la jeunesse pauvre d'Alger. et peut-être des étudiants, mais c'était minoritaire. Même la révolution égyptienne, ça a concerné quelques centaines de millions, milliers, voire un million ou deux de personnes dans un pays de 80 ou 100 millions d'habitants.
Et là, on est là, dans une toute autre proportion.
Toute autre chose. Toute autre chose sans équivalent. Donc, les gens veulent y croire, les gens sont heureux. Bon, puis il y a une émulation, hein, quand vous dites un processus révolutionnaire. Il faut jamais oublier que la jeunesse algérienne et la population algérienne est biberonnée à la culture révolutionnaire. Donc, ça veut dire quelque chose. C'est pas un mot creux. Longtemps, ils se sont pas retenus, mais oui, un peu. Donc là, il y a vraiment cette dimension de masse. Quelque chose s'est construit depuis 2 mois. Et si tout d'un coup, ça s'arrête, parce que ça a des conséquences pratiques, si vous voulez, si on reste dans le processus constitutionnel, ça veut dire qu'il va pas y avoir de révision des listes électorales, ça veut dire que des millions de jeunes n'ont pas de carte électorale et donc participer aux manifestations et ne vont pas pouvoir voter. Est-ce qu'ils vont être d'accord ? J'ai quelques raisons d'en douter.
Akram Belkaïd.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, hein, notamment sur le caractère historique de ces manifestations et de leur ampleur. Comme point complémentaire, même si ça a été effectivement évoqué, je dirais que il y a 2 choses qui m'intéressent énormément. La première, c'est l'irruption finalement de la jeunesse dans le champ politique. Cette jeunesse qui, il y a encore 5 ans, en 2014, lorsqu'il s'est agi de protester contre le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, cette jeunesse-là n'avait pas suivi. Elle était restée en dehors, les gens manifestaient dans les rues d'Alger, on avait énormément d'intellectuels, de gens de génération, je dirais, plus âgée, mais la jeunesse n'avait pas suivi. Il s'est passé quelque chose en 5 ans, c'est-à-dire une page s'est tournée. C'est le deuxième point qui, à mon sens, est très important. Cette page qui s'est tournée, je pense que c'est la page de l'héritage de la décennie noire, de la guerre civile des années 90. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une jeune génération qui n'est plus prisonnière, je dirais, de ce lourd héritage qui a fait que pendant très longtemps, les Algériens ont eu des réticences à exprimer dans la rue leur refus d'un pouvoir qu'ils, de toutes les façons, qu'ils n'aimaient pas, mais qu'ils considéraient comme étant un moindre mal par rapport à ce qui aurait pu se passer en comparaison de la Syrie, de la Libye. Aujourd'hui, l'argument qui consiste à dire aux gens « restez tranquilles, ne menacez pas la stabilité du pays parce que nous allons avoir le chaos », ça ne marche plus. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il aura finalement fallu attendre 20 ans, 99-2019, pour qu'on voit arriver une jeune génération qui a été le moteur des manifestations. Ce qui s'est passé, par exemple, le 22 février est très intéressant parce que les premiers à sortir, malgré toutes les rumeurs, toutes les mises en garde plus ou moins implicites véhiculées par radio-trottoir, ce sont les jeunes. C'est eux qui ont créé le mouvement. C'est eux qui ont entraîné le reste de la société. Les parents, les grands-parents sont sortis en même temps, mais ensuite, souvent. Et donc là, on a cette question fondamentale de savoir comment tout cela va être organisé, comment le champ politique va s'emparer de cette irruption soudaine de ce qui constitue plus de la moitié de la population algérienne.
Alors, Pierre Verman.
Juste un mot. En 2016, avait eu lieu une révision de la Constitution, dans laquelle, si je me rappelle bien, on était revenu à pas plus de 2 mandats pour le président. Et là, il s'agissait du 5e après la révision constitutionnelle. Donc, c'est comme si on avait jeté une allumette dans un feu de paille. Mais ils n'ont pas mesuré qu'effectivement, on changeait d'époque.
Alors, beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est dit. Et là encore, on reviendra sur les questions économiques. On peut peut-être rester encore sur les aspects politiques. Ce calendrier, élection au 4 juillet prochain, élection présidentielle, tout cela laisse fort peu de temps à l'opposition pour s'organiser. C'est probablement là-dessus que joue le pouvoir en place en Algérie. Comment voyez-vous les choses s'organiser ? Qu'est-ce qui se détache aujourd'hui de la dynamique de la révolte ? Comment évolue-t-elle ? Et voilà, comment l'opposition est-elle organisée, si tant est qu'elle le soit, Nadji Safir ?
Mais c'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a un mouvement, j'hésite à utiliser l'adjectif, mais tout le monde maintenant l'utilise, on est en présence d'un mouvement dégagiste. C'est une évolution qui est remarquable dans beaucoup de pays. on ne vient pas d'abord pour proposer, mais on vient d'abord pour dire on en a marre de ce système.
D'ailleurs, voilà, c'est dégagiste non pas sur une personne, en l'occurrence Abdelaziz Bouteflika, mais c'est tout le système.
C'est-à-dire qu'au départ, moi je pense que l'élément catalyseur en quelque sorte, ça a été tous les excès autour de la personne du président Bouteflika. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des phases absolument ubuesques. Bon, tout le monde connaît les anecdotes, les chevaux qu'on offrait à un cadre, les tribunes qui se levaient devant un cadre et qui le saluaient, etc. Donc on était vraiment dans une situation de plus en plus ubuesque et révoltante. Et donc, je pense, pour revenir un peu à la genèse qui a été abordée, le processus a été lent, ça s'est accumulé. Pour ma part, je pense que beaucoup de choses se sont passées dans les stades. Les jeunes Algériens sont des fans de football et pendant longtemps, les clubs de supporters, les tribunes se sont transformés en espace
politique,
absolument. Parce que vu que l'espace public, au sens de Habermas, hein, était interdit, ils se sont construits leur espace public et c'était les tribunes des stades où il y avait des critiques parfois même excessives, hein, des attaques personnelles, mais contre le régime. Donc c'est un processus qui s'est constitué lentement, mais qui a fini en quelque sorte par prendre. Puis, donc, on est passé de la personne de Bouteflika, du rejet du cinquième mandat, au rejet du système. Et maintenant, c'est qu'ils dégagent tous, on veut plus les voir, les 3B, les 4B, etc. Donc, je crois que la démarche actuelle est une démarche de rejet. Ça veut dire que la démarche de construction est encore embryonnaire. Et c'est en ce sens qu'une élection présidentielle fixée au 4 juillet est, à mon avis, une espèce de manœuvre pour contourner ce mouvement, pour le brimer, pour l'empêcher de s'organiser. Objectivement, il faudrait quelques mois pour que toute cette opposition, tout ce mouvement social puisse s'organiser et déboucher sur des propositions politiques relativement construites.
Alors, comment les choses peuvent-elles se passer d'ici au 4 juillet, Pierre Vermeren, Akram Belkaïd? Est-ce qu'il faut, puisque on l'a bien compris, après ce que vient de dire Nadji Safir, cette élection présidentielle, elle ne veut pas résoudre la question, puisque là aussi, le schéma à l'intérieur de la Constitution ou à l'extérieur, l'opposition, la rue, ne va pas se satisfaire de ce scrutin, Akram Belkaïd?
Alors, l'une des caractéristiques du système ou du régime algérien, c'est sa capacité à toujours gagner du temps. Si on peut, c'est une clé de lecture. Si on regarde l'histoire depuis 62, ça a toujours été une capacité face à l'adversité, face aux tempêtes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est gagner du temps. Et là, on sent bien qu'effectivement, ce que vient de décider le chef de l'état-major, cette espèce de transition au nom du respect d'une constitution qui par ailleurs a été allègrement violée au cours de ces dernières années, effectivement, c'est une espèce de gain de temps parce que c'est une tentative de faire en sorte que les choses ne changent pas, que le système soit préservé. On va voir dans les semaines qui viennent très certainement apparaître soudain le nom du candidat qui aura été coopté par le système. Peut-être même que le système va s'accorder le luxe de se trouver deux personne, donc pour essayer d'organiser une espèce de vraie fausse élection incertaine. Ça, pour ça, l'ingénierie politique, ce système-là, sait faire. En attendant, il y a la population, comme l'ont dit messieurs Nadji Safir et Pierre Vermeren, la population, elle, est dans le dégagisme, effectivement, elle a compris d'ailleurs, ce qui est très intéressant, et ça c'est un signe de maturité politique, la nécessité d'une transition longue. On va donc très certainement continuer à avoir des manifestations. On rentre, à mon avis, dans une phase longue de contestation, de peut-être d'instabilité, de revendication, quel que soit le cheminement, je dirais, électoral. Les autorités parient aussi sur l'essoufflement du mouvement, avec notamment un élément de calendrier qui n'est pas anodin, qui est le Ramadan qui va commencer au mois de mai, hein, début mai, du 5 mai grosso modo jusqu'au 5 juin. Et je pense que les autorités se disent que pour elles c'est un avantage. La foule a déjà répondu dans certaines pancartes. On a vu, eh bien, pendant le Ramadan, nous manifesterons la nuit, puisque le jour, les gens sont en train de jeûner. Mais enfin, voilà, il y aura très certainement cette dualité entre une tentative de gagner du temps, de normaliser les choses, et une dynamique qui, à mon sens, n'est pas prête de s'essouffler.
Alors, au sein du pouvoir algérien, il y a des clans, Pierre Vermeeren, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe, avec l'évolution. Et pour ensuite aborder autre chose, c'est l'armée. Elle joue ces dernières semaines un rôle politique central en Algérie.
Oui, ça c'est certain que l'armée ne va pas disparaître. Elle est même au cœur de l'État et au cœur des décisions politiques, on le voit. C'est comme ça depuis toujours, je dirais, depuis 1962. Maintenant, le problème, c'est que, comme vous dites, il y a des divisions, il y a des questions de génération, il y a des questions de stratégie, et des messages contradictoires ont été envoyés au peuple algérien. C'est-à-dire qu'on leur a dit d'abord que Bouteflika allait rester. Ensuite, il a été sorti par nécessité, je dirais. Ensuite, on a commencé à faire circuler des noms. On a annoncé qu'il y aurait une sorte de conseil de révision de la Constitution qui serait mis sur pied. D'autres ont dit qu'on allait respecter la Constitution. Finalement, on met en circulation des noms de personnalités intègres, non corrompues. Et puis finalement, on nomme ou on laisse diriger les opérations actuellement par des proches du président Bouteflika. Donc la population, elle a des bonnes raisons de penser qu'il y a des divisions et qu'il faut pousser son avantage. Et c'est là, effectivement, qu'il y a un risque. Parce que si à un moment, la décision est prise par on ne sait pas trop qui, mais en tout cas de bloquer ce mouvement de contestation en espérant que ça va s'essouffler et que, je dirais, un peu ça rappelle la situation marocaine en 2011, c'est-à-dire qu'on a fait les élections comme ça pratiquement le premier ou le deuxième jour de l'été en se disant bon ça y est c'est parti, sauf que ce qui s'était passé au Maroc au premier semestre, d'abord le roi avait remis quasiment en jeu la constitution, bon tout ça a été très compliqué, mais et puis ce mouvement surtout n'avait pas eu cette ampleur, hein. Si vous voulez, il n'y a pas de précédent. Alors on dit, oui, mais il n'y a pas d'organisation, ce sont des individus, ce sont des jeunes, il n'y a pas de parti, donc c'est pas si grave. Mais si, c'est grave, parce que là, c'est pas justement une manipulation. C'est tout un peuple. Il y a 2 ou 3 millions d'étudiants en Algérie. Il y a des régions entières qui ont des bonnes raisons d'être insatisfaites. Il y a un problème de niveau de vie considérable. Et puis les gens savent qu'il n'y a pas de ressources, puisque le fonds, on reviendra à l'économie, mais c'est la clé. Le fonds de souveraineté a été mangé dans les dernières années. Le pétrole n'est pas remonté, ne va pas a priori pas remonter, puisque la croissance mondiale est plutôt molle. Donc, qui va décider ça? Des gens qui sont des amis de Bouteflika, qui vont annoncer bientôt des mesures d'austérité? Lesquelles mesures d'austérité sont déjà prises depuis 3-4 ans? Bon, donc le fond de l'air est très très frais. Hein.
Alors, c'est tout un peuple qui se révolte, et c'est-à-dire que le spectre d'un scénario à la syrienne n'a pas cours, Nadji Safir, pour la question algérienne en une minute.
Personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on arrive à toute l'horreur du scénario syrien pour de multiples raisons. Hein. Je crois que pour critiquable qu'il soit, le pouvoir algérien est quand même très différent du pouvoir qui régnait en Syrie et qui y est toujours, d'ailleurs. Donc je crois que l'Algérie a quand même une histoire particulière dans laquelle il y a un vieux fond populiste. Je pense qu'on peut aller, disons, vers une zone de turbulence. Mais pour ma part, je ne crois pas du tout à un scénario syrien.
Oui, d'une certaine manière, cette carte, d'une certaine manière, a été déjà jouée, je dirais, dans les années 90. Vous savez, la violence, les Algériens, ils connaissent.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Pierre Vermeeren, Nadji Safir et Akram Belkaïd, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Algérie. Nous retrouvons nos invités, Nadji Safir, sociologue, consultant international, spécialiste du Maghreb et membre de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au quotidien d'Oran et collaborateur à Orient 21, auteur de L'Algérie, un pays empêché en sans question, aux éditions Talendier. Et Pierre Vermeren, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb, membre du laboratoire Cyrus et auteur de Dissidents du Maghreb, paru aux éditions Belin. Akram Belkaïd, on a terminé la première partie de l'émission en évoquant un scénario à la syrienne pour l'Algérie.
Je suis comme mes deux amis, je n'y crois pas. Comme l'a dit Pierre, la violence, les Algériens connaissent. Les années 90 sont encore là, même si effectivement la peur de voir se renouveler ces événements a disparu et donc n'a pas empêché les gens de sortir dans la rue. Alors, on dispose toujours d'informations contradictoires concernant l'armée, mais visiblement, dans les conclaves qui ont eu lieu avant que le président Bouteflika ne parte, parce que le chef d'état-major ne décide pas tout seul, il réunit les officiers supérieurs, les chefs de région militaire. Beaucoup se sont exprimés sur ce thème-là en disant il est hors de question qu'on refasse le sale boulot. C'est-à-dire que par rapport aux années 80 déjà, octobre 88, qui a été un traumatisme profond, puisque c'est, je le rappelle, une unité de l'armée qui a ouvert le feu sur les jeunes manifestants, notamment dans le quartier de Bab Louad à Alger. Ensuite, la décennie noire, la sale guerre avec toutes ses implications, tous ces massacres horribles, enfin c'est un moment de violence extrême. Donc, je ne pense pas qu'il y ait, même si, il ne faut pas le nier, certains dirigeants algériens ont un mépris profond pour le peuple. Ils l'ont bien montré, tout le carnaval dont Monsieur Safir parlait tout à l'heure sur l'histoire de cette photo du président à qui on offre des chevaux. Enfin, cette humiliation qu'on a infligée aux Algériens en essayant de leur imposer un cinquième mandat, il y a dans le personnel politique algérien des gens qui n'ont aucun respect pour la population et qui demain sont capables, effectivement, si on les laissait seuls, de décider d'une violence extrême à l'encontre des manifestants. Ceci étant, le consensus populaire va à l'encontre de ce genre d'options. Il n'en demeure pas moins qu'il y a tout de même des inquiétudes. Ce qui m'inquiète à titre personnel, c'est la situation géopolitique. Alors, sans tomber dans le complotisme le plus primaire, il se trouve que les événements d'Algérie, cette contestation populaire, ne font pas l'affaire de certaines puissances arabes, je pense notamment aux monarchies du Golfe, qui sont dans un mouvement réactionnaire, de contre-révolutionnaire. On sait très bien quel rôle ont joué ces monarchies pour faire déraper les printemps arabes de 2011. Et ce qui se passe aujourd'hui aux frontières de l'Algérie, avec cette soudaine, par exemple, offensive du maréchal Haftar contre Tripoli, Monsieur Haftar qui est soutenu à bout de bras par l'Égypte, mais surtout par les Émirats arabes unis, c'est un des éléments qui font que les Algériens aujourd'hui sont très attentifs à cette question.
Alors, peut-être on reste quelques instants sur l'aspect géopolitique et ensuite on abordera les questions économiques pour rebondir sur ce que vient de dire Akram Belkaïd, Pierre Vermeren et Nadji Safir sur les aspects donc géopolitiques. Les événements en Libye ne sont pas le fruit du hasard par rapport à ce qui se passe en Algérie.
Il n'y a jamais de hasard.
Il n'y a jamais de hasard. Et pour ce qui est aussi des autres voisins de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui regardent ce qui se passe chez leurs voisins avec une certaine prudence, voire de l'appréhension.
Non, alors le Maroc, c'est une chose. Bien sûr que tout le Maroc observe ce qui se passe avec des sentiments parfaitement contradictoires, puisque d'un côté, ils disent enfin les Algériens vont se libérer de cet horrible régime, et en même temps, ils se disent danger de contamination, etc. Bon, mais ça, c'est une chose. Au niveau géopolitique, si vous voulez, le problème des monarchies du Golfe et de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, qui patronnent quand même l'offensive d'Haftar, jusque-là, ça leur allait assez bien de voir la Tunisie s'enfoncer dans la misère. Vous savez, le PIB de la Tunisie a pratiquement été divisé par deux, le PIB par habitant depuis la Révolution. Donc ils se disaient, finalement, cette petite démocratie qui va progressivement s'étouffer, au fond, ça fait les affaires de tout le monde. Mais si il y avait la transformation du régime algérien dans une direction qu'il faut bien appeler démocratique, Ça sauverait d'abord probablement la mise à la Tunisie, et d'autre part, ça créerait une émulation. On a vu au Soudan ce qui se passe en ce moment. Au Soudan, s'il se passe des événements actuellement, c'est bien parce que c'est la répercussion d'Algérie. Bon, et les monarchies du Golfe qui sont dans cette contre-offensive réactionnaire, pour le coup, ça ne les intéresse pas qu'un mouvement de démocratisation touche la partie occidentale du monde arabe, mais qui fait partie, pour eux, pleinement de leur région. Donc, oui, il faut être très vigilant là-dessus, et très inquiet aussi.
Nadji Safir, vous souhaitez rajouter quelque chose ou on passe à l'économie ?
Je pense que l'essentiel a été dit, je rajouterai seulement un point. Je pense qu'il y a une dimension essentielle qui est trop souvent passée sous silence, c'est la dimension du Maghreb. Moi, je pense que la dimension maghrébine est absolument essentielle. Le Maghreb, qui est bloqué depuis maintenant des décennies, hein, avec une union du Maghreb arabe qui ne fonctionne pas du tout, et pourtant, de mon point de vue, c'est la condition pour que la région émerge au plan, disons, au moins régional, je ne dirais peut-être pas au plan mondial, mais au moins au plan régional. Et ça fait le lien avec l'économie que nous allons aborder. J'ai pu lire certaines contributions sur Internet, dans la presse. Il y a certains intellectuels, certains économistes qui commencent à poser le problème du Maghreb en disant « ce régime nous a conduit à des impasses internes, mais aussi à des impasses régionales ». Et donc, je crois que c'est une dimension importante, et la réflexion qui s'ouvre en Algérie, je pense qu'elle finira par briser un certain nombre de tabous, et entre autres ceux concernant le blocage de la construction maghrébine, qui est une tragédie pour les cinq pays en réalité.
Pierre Vermorel.
Il y a toute une mouvance aussi berbériste, appelons-la comme ça, qui ne veut même plus entendre parler de Maghreb, qui, moi, je vais me faire engueuler si j'utilise le mot de Maghreb, il faut dire l'Afrique du Nord, parce qu'il y a cette volonté aussi de se dissocier des affaires du Moyen-Orient et des influences quand même particulièrement perverses dans certains domaines de cette région. Donc, voilà, et c'est clair qu'il y a une dynamique régionale forte maintenant. Ce qui va se passer en Algérie en sera la clé, bien sûr.
Alors, l'économie, l'Algérie, Krim Belkaïd, le pays dispose de tous les atouts nécessaires à un développement réussi. 40 millions d'habitants, une population éduquée, près des deux tiers des Algériens ont moins de 35 ans. Sur le plan des richesses naturelles, un sous-sol qui est l'un des mieux dotés du continent africain et du monde arabe. Pétrole, gaz naturel, hydrocarbures de schiste, de l'uranium, présent aussi en grande quantité dans le sud saharien. Beaucoup de progrès ont été faits depuis l'indépendance, mais l'Algérie stagne. Quand elle n'est pas en queue de peloton, on peut rappeler que le chômage fait des ravages et atteint, selon les régions, 40% et une corruption endémique à Krim Belkaïd.
Oui, vous savez, si je devais faire référence au titre de mon ouvrage, l'Algérie empêchée, c'est parce que c'est un pays qui normalement devrait être à la pointe des pays émergents. Et il devrait être à un niveau de développement correspondant. Dans les années 60, l'Algérie était pratiquement au même niveau que la Corée du Sud, mais depuis, la régression a été importante. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a le capital humain, qui a l'énergie, qui a l'eau, qui a la démographie, mais qui n'arrive pas à décoller pour différentes raisons. Je pense que l'une des raisons fondamentales du fait que on a un pays dont l'économie n'est absolument pas diversifiée, c'est lié au système politique. C'est un système politique qui s'appuie sur la rente et dont les effets pervers de cette dépendance font que les initiatives individuelles, lorsqu'elles ne sont pas sous le sceau du clientélisme, sont impossibles. Un jeune entrepreneur qui n'a pas de piston de protection ne peut rien faire dans ce pays. Et puis c'est un pays qui attend des réformes depuis très longtemps. D'ailleurs, on a du mal à définir les politiques économiques de l'Algérie. On ne sait plus très bien si ce pays est socialiste ou s'il ne l'est plus. On ne sait pas s'il est dans l'économie de marché ou s'il ne l'est pas. On a un patronat privé, mais qui est en réalité un patronat de monopole, donc c'est finalement des gens qui empêchent d'autres concurrents de venir sur leur plate-bande. Donc voilà pourquoi la situation économique est assez compliquée, et effectivement l'une des urgences, si demain les choses s'améliorent sur le plan politique, l'une des urgences va être vraiment de redonner un vrai souffle, réel, pas artificiel, à l'économie, en ne dépendant pas uniquement de l'exploitation du sous-sol.
Pierre Vermorel.
Ben oui, on est dans la rente. Les chiffres sont un peu contradictoires, mais apparemment, les années Bouteflika, c'est 800 milliards de dollars, de pétrodollars, qui ont été flambés en quelque sorte, parce qu'ils ont été à la fois, bon, une petite partie a été détournée, une grosse partie a servi à faire fonctionner la machine étatique et militaire algérienne, c'est normal, mais aussi une grosse partie a été offerte à la population pour la calmer, après 2011 notamment, au lieu de faire un plan de stratégique de développement, d'industrialisation, de reconstruction de l'agriculture, d'investir pour l'avenir, de préparer l'après-pétrole, rien de tout ça, on a flambé. Et voilà, et il y avait un fonds souverain à un moment en 2015 qui existait avec 200 milliards de dollars de réserves et il a servi finalement à assurer la transition de la baisse et il est retombé aujourd'hui à zéro, vous vous rendez compte ? Les Algériens, ils le savent très bien, finalement tout est à refaire, tout est à reconstruire. Alors, on est dans une caricature d'économie rentière, vous avez le pays pratiquement le plus riche d'Afrique hein, en termes de richesse par habitant qui ne peut plus bientôt assurer ses fins de mois et qui est obligé de couper dans des petites dépenses ridicule. Donc, c'est une affaire de très grande ampleur. Je terminerai juste en disant, puisqu'on parlait du Maghreb, de l'Afrique du Nord, la Turquie, c'est 1000 milliards de dollars de PIB aujourd'hui. Le Maghreb, c'est 350 milliards. Il devrait avoir un PIB de 1000 ou 2000 milliards, le Maghreb. Ça devrait être une région normale qui fonctionne, avec des frontières ouvertes. Tout est fait pour ça, géopolitiquement, aux portes de l'Europe, de la Méditerranée, de l'océan Atlantique. On est dans une situation pathétique. Donc c'est ça aussi dont les Algériens, aujourd'hui, probablement essayent de sortir de cette nasse.
Nadi Safir.
En ce qui concerne les questions économiques, moi je pense qu'il faut revenir au constat de base. Le constat de base, c'est que l'Algérie est un pays, de mon point de vue, victime d'une malédiction des ressources naturelles.
Comme un certain nombre d'autres pays dans le monde,
absolument.
On voit le Venezuela.
Absolument. Personnellement, j'ai toujours considéré que l'évolution du pays était dictée par deux rentes. En fait, il y a la rente classique, entre guillemets, liée à l'exploitation des ressources naturelles, et une rente politique qui est liée à l'exploitation, disons, des ressources historiques au plan politique. C'est ça qui, politiquement, a fait que jusqu'à aujourd'hui, on continue à utiliser le sigle du FLN, à utiliser tout ce qu'a pu représenter le mouvement national. Donc, pour en revenir maintenant à la situation économique, je crois que l'Algérie est dans une situation extrêmement inquiétante parce que, comme ça a été dit par les amis ici présents, fondamentalement, l'économie n'a pas été diversifiée. C'est la grande erreur, je pense que ce sera la tache noire au plan économique du bilan des années Bouteflika. Il n'y a pas eu de diversification de l'économie. Et pourtant, comme ça a été dit, le pouvoir a eu le temps, il a eu 20 ans, et il a eu l'argent. On a évoqué 800 milliards, on évoque même 1000 milliards, peu importe les chiffres, en tous les cas, il y avait des ressources pour faire les réformes, pour investir dans les secteurs stratégiques, pour aller vers la production, et on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que la logique principale était une logique politique, tout faire pour rester au pouvoir. Et pour ça, évidemment, on a redistribué les logements, entre parenthèses, les titres d'attribution des logements qui étaient remis aux bénéficiaires, comportaient en première page un portrait du président. Et donc, la situation actuelle est particulièrement inquiétante. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le chômage. On a parlé de la participation des jeunes. Moi, je considère que c'est un précariat. Et c'est ce précariat qui est devenu la classe politique la plus active, d'ailleurs, au niveau du monde arabe et d'autres régions dans le monde. Et vous avez des millions de jeunes qui vivotent, qui ne font que survivre au quotidien grâce aux solidarités familiales. Et ces jeunes-là n'ont plus de perspective. Et même les étudiants, vous voyez une forte participation des étudiants aux manifestations. Ces étudiants ont conscience que leur diplôme ne leur servira à rien. Ils savent qu'ils sont formés pour être des chômeurs. Et donc, c'est un véritable enjeu. Il y a quelques jours, il y a eu une information. De jeunes chômeurs ont envahi le complexe sidérurgique d'Al-Hajjar à Annaba en disant « nous voulons du travail ». et ils l'ont envahi, et il n'y avait plus les conditions de sécurité pour travailler. Le directeur de l'unité de production a été obligé de bloquer la production, et puis il a fallu évacuer ces jeunes. Donc voilà la situation, et c'est ça qui m'amène à être très inquiet quant aux perspectives. Comment on va faire redémarrer cette machine économique? Comment on va avoir une économie productive? Parce qu'en dehors du pétrole, l'Algérie ne produit rien. Comment on va produire des biens qui seront compétitifs à l'échelle internationale? Parce que c'est une contrainte. Voilà un ensemble de questions qui est vraiment fondamental pour la suite de la transition. Parce que l'Algérie risque de se retrouver un peu dans la situation de la Tunisie actuelle. C'est-à-dire que la transition politique, disons entre guillemets, pour l'essentiel est réussie et reste l'enjeu économique.
Alors, on n'a pas parlé de la France, Akram Belkaïd. On le voit, une position de Paris qui oscille entre ni ingérence ni indifférence. Alors, cette semaine, le directeur de l'agence France Presse a dû quitter l'Algérie parce qu'il s'est vu refuser le renouvellement de son accréditation pour 2019. Vous le disiez hors micro, les affaires ne sont pas forcément complètement liées. Dans la situation aujourd'hui de l'Algérie, il y a une responsabilité à l'international de cette situation et du bilan que vous faites des années Bouteflika et l'état des lieux de l'Algérie aujourd'hui.
Non, le principal responsable de cette situation, c'est Bouteflika, son clan, les gens qui l'ont placé au pouvoir en 99 et qui l'ont laissé multiplier les mandats et mener ce pays, je dirais, dans cette situation terrible. On a perdu 20 ans, l'histoire jugera de manière très négative Abdelaziz Bouteflika à bien des niveaux, ne serait-ce que parce que il a refusé la démocratisation du pays, il a engagé ce pays dans une impasse sur le plan économique en dilapidant effectivement la rente pétrolière. L'un des slogans des gens qui manifestent, c'est « Où sont passés les 1000 milliards de dollars ?» Donc les gens sont conscients de ça. Donc voilà. Alors effectivement, les Algériens ont une obsession, c'est la non-ingérence. Et donc à chaque fois que la France dira quelque chose à propos de la situation algérienne, quel que soit le propos, ce sera mal perçu. Donc, je pense à mon avis que la France a tout intérêt à faire profil bas sur cette affaire et surtout ne pas clamer un soutien un peu trop appuyé aux manifestants parce que ça donnera crédit à la thèse du complot, etc. La seule chose que j'aimerais tout de même dire, c'est que l'histoire retiendra tout de même que deux présidents français, François Hollande et Emmanuel Macron, ont donné corps à, je dirais, à la thèse, enfin ont soutenu l'idée que le président Bouteflika était capable de mener à bien sa mission, alors que tout le monde savait que ce n'était pas le cas. Et ça, je pense que ça restera dans les esprits et qu'il faudra un moment ou un autre en reparler.
Parce que Bouteflika était malade après avoir subi un AVC. Pierre Vermeren.
C'est vrai que les Français sont a priori disqualifiés, en l'occurrence. C'est peut-être l'occasion pour une fois de faire l'Europe et de laisser les Allemands aussi et les Italiens et nos partenaires européens participer à une décision politique commune. Voilà, mais c'est peut-être le moment de sortir
décision
à tout point
commune.
De vue. Si vous voulez, c'est vrai que la France, elle a du mal à parler de l'Algérie. Et du point de vue des Algériens, on le comprend très bien. On est en train de sortir du post-colonial en Algérie avec le départ de Bouteflika. Peut-être que de notre côté, on peut faire pareil en mutualisant les avis, les commentaires, les décisions, les encouragements à la situation algérienne. Mais bon, on peut toujours être utopique.
Nadji Safir, en guise de conclusion.
Je rejoins pour l'essentiel ce qui a été dit. De toutes les façons, ce qui se passe en Algérie résulte de processus purement internes. Malgré toutes les thèses complotistes qui circulent en Algérie, où ces thèses ont beaucoup de succès par ailleurs. Donc je crois que c'est un processus interne, c'est la responsabilité des Algériens de mener à bien ce processus, et les autres partenaires régionaux ou mondiaux feraient bien de ne pas s'immiscer dans ce qui se passe en Algérie.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Nadji Safir, je rappelle que vous êtes sociologue, consultant international, spécialiste du Maghreb et membre de l'IREMO. Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au quotidien d'Orient et collaborateur à Orient 21, et auteur de L'Algérie, un pays empêché, en sans question, aux éditions Talendier. Et Pierre Vermeren, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb, membre du laboratoire Siris et auteur de Dissidents du Maghreb. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Yaël Co et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons guerre économique. À demain.